Radio-Canada, audio.
Monsieur Woodruff, votre test de VIH s'est révélé positif. Monsieur Woodruff, il ne vous reste plus que 30 jours à vivre.
Ben, j'ai des petites nouvelles pour vous. Y a rien dans ce monde qui peut tuer Ron Woodruff en un mois.
Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait de la bande-annonce du film Dallas Buyers Club, du réalisateur québécois Jean-Marc Vallée. C'est une production hollywoodienne avec des vedettes comme Matthew McConaughey, Jared Leto et Jennifer Garner. Le film a remporté des multiples prix, incluant aux Oscars en 2014.
And the Oscar goes to Dallas Buyers Club. A group of me.
Mais il y a une histoire en lien avec ce film-là dont on entend rarement parler. Elle a été racontée en 2021 dans le magazine Vanity Fair par le militant américain Peter Staley.
You were asked to be an actor in the movie in the first place. Is that correct?
Isn't that crazy?
Yes. Well, playing with Matthew McConaughey, that's kind of cool.
I know exactly.
Peter Staley, c'est un militant important pour la cause du sida aux États-Unis. Lui-même est séropositif depuis 1985 et il s'est battu pour améliorer l'accès aux soins chez les personnes atteintes de VIH. Jean-Marc Vallée a entendu parler de lui et il a offert à Peter Staley un petit rôle dans Dallas Buyers Club. Le film est librement inspiré de l'histoire de Ron Woodruff, un homme séropositif qui a démarré, dans les années 80, un club, justement, ou une sorte de marché noir, en fait, pour vendre différents suppléments et médicaments contre le sida qui n'étaient pas approuvés à l'époque. Donc, Peter Staley a accepté de lire le scénario. Et là, une grosse surprise l'attendait.
10 minutes into reading the script from page one, I was like, oh my God, what am I reading? This script was pure AIDS denialism propaganda.
Je traduis, le script était de la pure propagande dénialiste du sida. Le dénialisme du sida, c'est une théorie du complot qui prétend que le VIH n'est pas vraiment la cause du sida, ou même que le sida n'existe pas. C'est la théorie qui a conduit à la mort de Bernard Lachance. Et c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui.
I was horrified. And I basically was like, I've got to stop this.
Peter Staley était horrifié, puis il s'est mis à tout faire pour alerter la production des fausses informations que le film allait véhiculer. Sauf que le tournage débutait dans seulement 7 semaines. Donc, ça allait l'entraîner dans un combat intense, rempli de rebondissements, où il allait aussi croiser des visages connus. Un visage, entre autres.
Juste pour te mettre dans la peau du personnage, là, t'es Eve. Fait que t'es un médecin qui est joué par Jennifer Garner.
Je l'aime.
Ouais, puis moi, je suis le docteur Sévard.
Ça sent de faire ça, on va être full poche. Ça va être horrible dans ton balado.
Mais non, ça va être bien correct.
J'ai réussi à convaincre ma blonde India qu'elle et moi, on reconstitue une scène du scénario original de Dallas Buyers Club que Peter Staley cite dans son article.
Okay. Donc, couloir de l'hôpital de Dallas, nuit, Eve marche dans le corridor en pleine conversation avec le docteur Sévard.
Ron Woodruff a des niveaux affaiblis de globules blancs, mais autrement, il est en pleine forme.
Je ne vais pas débattre de VIH avec vous.
La réalité est que nous ne savons pas si le VIH est en cause.
Basé sur quoi?
Un spécialiste de la biologie moléculaire dit que le VIH est un virus inoffensif. Le docteur Duesberg.
Cool.
Duesberg, une des principales inspirations de Bernard Lachance. Mais aussi le scientifique que Guylaine Langteau est allée voir à un congrès de scientifiques dissidents à Amsterdam en 1992 et dont les idées ont inspiré la mafia médicale. Je m'appelle Olivier Bernard et vous écoutez Dérive, les secrets de la mafia médicale. Épisode 5, dénialisme. Je vais vous raconter la suite des mésaventures du film Dallas Buyers Club un peu plus tard et puis comment tout ça est connecté autant à Bernard Lachance qu'à Guylaine Langteau. Mais pour bien comprendre, il faut d'abord être familier avec les bases du VIH et du sida. Et puis, pour être 100% honnête, en tant que pharmacien généraliste, j'ai pas eu beaucoup de patients séropositifs au fil des années, donc je suis un peu rouillé dans mes propres connaissances à ce niveau-là. Et puis, c'est crucial d'avoir une bonne compréhension du sujet parce que les théories dénialistes sont ancrées dans la science et dans l'histoire du VIH et du sida. Et pour se mettre en contexte, je vous propose qu'on retourne à l'histoire de Bernard Lachance.
Ceci est une lettre ouverte à mon médecin de famille, le populaire docteur Régent Thomas de la Clinique L'Actuelle à Montréal. Régent, à mon dernier rendez-vous, tu m'as demandé pourquoi j'ai arrêté mes traitements VIH il y a 3 ans, printemps 2017.
Ça, c'est une vidéo que Bernard a mis en ligne en 2021 et qui s'adresse directement à son médecin, le docteur Régent Thomas, comme vous l'avez entendu. Il lui résume pendant une dizaine de minutes son argumentaire comme quoi le sida est un grand mensonge.
Parce qu'après avoir passé des centaines d'heures à m'informer sur ce que j'appelle maintenant l'imposture du VIH égale sida, eh bien, il y a une chose dont je suis absolument persuadé dans ma vie, que tous ces braves scientifiques appartenant à l'élite de l'élite, tous ces lanceurs d'alerte qui ont été censurés d'une main de maître, et ce depuis 35 ans, sont pour moi clairement ceux qui ont tenté de nous crier la vérité.
Bernard avait reçu son diagnostic de VIH en 2008, après une année passée à New York pour faire avancer sa carrière en chanson. L'annonce a été un choc et puis au début, il ne voulait pas prendre de médicaments. Ça lui a pris 1 an avant de commencer les traitements.
Pilule que j'ai prise pendant 8 ans. Religieusement, à chaque matin, je remerciais même la vie de ne pas avoir attrapé ça dans les années 90, ce sida mortel-là.
Depuis plusieurs années, on parle presque plus du sida. Puis, je trouve ça vraiment difficile d'imaginer ce que ça représente de recevoir un diagnostic du genre de nos jours. Ça semble se soigner vraiment bien maintenant, en tout cas, donc pourquoi quelqu'un douterait de ça?
Moi, j'ai vu des miracles, tu sais, tu comprends? On voyait vraiment des médecins. En médecine, c'est rare, là, quand même.
Pour en discuter, je suis allé à la source et j'ai rencontré le docteur Régent Thomas à sa clinique au centre-ville de Montréal. C'est un médecin omnipraticien bien connu pour son engagement auprès des personnes séropositives.
Moi, je suis sorti de l'université, le sida n'existait pas. J'ai vu mon premier patient en 82, je ne savais pas c'était quoi. Il était rentré dans mon bureau et il dit « je crois avoir la maladie des Américains ». Je ne savais pas de quoi il parlait. Mais ce qui est hallucinant, c'est qu'on a tout oublié ça. C'est quand même la plus importante pandémie du 20e siècle. Puis les jeunes médecins qui arrivent ici ont zéro éducation là-dessus, tu sais. Il me semble qu'il aurait fallu qu'il y ait un cours d'histoire de ça en médecine.
Les premiers cas de ce qui allait plus tard être nommé SIDA ont été rapportés en 1981 aux États-Unis. Au début, c'était principalement des hommes homosexuels qui se sont mis à développer des symptômes étranges qu'on voit pas d'habitude chez des personnes en bonne santé, comme des pneumonies ou des lésions cutanées sans explication. Puis, des recherches menées entre 1983 et 1986 ont permis d'identifier le coupable, un virus appelé VIH ou virus de l'immunodéficience humaine. Il peut se transmettre, entre autres, par des contacts sexuels non protégés, par des aiguilles contaminées utilisées pour s'injecter des drogues, ou encore d'une mère à son enfant durant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement.
Le problème avec le VIH, c'est qu'il attaque le système immunitaire, il attaque le chef d'orchestre du système immunitaire, les fameuses CDK.
Quand le VIH entre dans le corps humain, il se lie à un type de globule blanc appelé CD4, qui servent à nous protéger des infections. Le virus les utilise comme une usine pour se multiplier rapidement, et donc des centaines de millions de copies du VIH vont envahir tous les organes. C'est là qu'on peut poser le diagnostic.
Ça se diagnostique en général avec une prise de sang dans laquelle on mesure les anticorps associés au VIH.
Cécile Tremblay est médecin, microbiologiste infectiologue et professeure-chercheuse au CHUM. Elle a passé toute sa carrière à faire des recherches sur le VIH. Ce qu'elle m'a expliqué, c'est que quand le corps est exposé au virus, il va essayer de se défendre en produisant des anticorps. C'est ça que ça veut dire être séropositif, qu'on a des anticorps contre le VIH, donc qu'on a été infecté. Sauf qu'après ça, ça dit pas grand-chose sur la gravité et sur l'évolution de l'infection. Pour ça, il faut mesurer 2 autres choses.
Les 2 tests les plus importants, quand je vais revoir mon patient 2-3 semaines après l'annonce du résultat, ça va être sa charge virale puis le système immunitaire.
Le but, c'est de garder un système immunitaire aussi fort que possible, donc un niveau de globules blancs élevé, et aussi d'avoir le moins possible de copies du virus en circulation, ce qu'on appelle la charge virale.
Si la personne elle est sous traitement, on s'attend à ce que sa charge virale devienne indétectable. Parce que quand on a une charge virale indétectable, on ne peut plus transmettre la maladie par relation sexuelle.
En plus d'empêcher la transmission du virus, on veut aussi éviter les dommages qu'il va causer dans le corps de la personne infectée, sur l'ensemble des organes.
Rapidement, le virus s'en va dans tous les réservoirs. Donc, il s'en va dans le système digestif de façon très importante. Il peut aller dans le cerveau. Donc, il va avoir des conséquences assez rapidement. Puis ces dommages-là, ils sont un peu irréversibles.
Mais le danger principal, c'est que les globules blancs qui ont été infectés par le VIH vont éventuellement être détruits, ce qui entraîne un effondrement du système immunitaire.
Éventuellement, le système immunitaire sera plus capable de produire les lymphocytes qui servent à nous protéger contre les infections. Et c'est là qu'on attrape des maladies graves et puis qu'on peut mourir du sida. Le sida, c'est le grand terme qui chapeaute toutes les infections que l'on peut attraper quand notre système immunitaire n'est plus performant. Donc, on peut attraper des pneumonies à pneumocystis, par exemple, qui est un microbe que les gens en santé habituellement n'attrapent pas.
OK, donc si moi, je suis séropositif et que je fais une pneumonie, que je décède de cette pneumonie-là parce que je n'étais pas traité, je suis mort du sida, en fait, parce que la pneumonie fait partie du syndrome global.
Oui, c'est exact.
Donc là, on en arrive aux premières fausses croyances sur le VIH et le sida. Parce que ce qu'on vient de voir il y a quelques instants, ça a l'air simple, mais certaines personnes peuvent se tourner plutôt vers des théories alternatives à ce sujet-là.
Sexuellement, avec leur virus jamais isolé, avec lequel tu peux t'infecter, mais mourir 20 ans plus tard, montre-moi-le mon VIH directement de mon sang au microscope électronique, pas l'artefact de laboratoire.
Ça, c'était un des arguments principaux de Bernard Lachance, qui est aussi très présent dans les théories dénialistes. Que le virus du VIH n'a jamais réellement été observé ou isolé à partir du sang d'un être humain. Et donc, selon eux, les tests utilisés pour diagnostiquer l'infection sont frauduleux et ne mesurent pas réellement la présence du virus. Bernard disait ça souvent à ses sœurs Lise et Marie-Claude, d'ailleurs.
Il était vraiment très crédible. Si quelqu'un ne fait pas des recherches un petit peu plus poussées là-dessus, là, va le croire. Même moi, j'ai eu un doute à un moment donné avec les histoires de Bernard. Là. Je me suis dit, coudonc, il y a peut-être raison. Il y en a-tu un complot pour vrai? Puis je travaille dans un laboratoire.
Oui, oui, ouais, t'es ça, t'es dans le domaine. Là.
Je suis dans le domaine.
Marie-Claude, qui travaille elle-même comme technicienne dans un laboratoire de recherche universitaire, savait pas quoi répondre. La même chose est arrivée à Vincent, un ami proche de Bernard.
C'est facile de lancer de la connerie, mais démonter la connerie, ça demande de l'information qui est appuyée sur quelque chose. Fait que je me retrouvais toujours face à un déséquilibre, là, en position de faiblesse par rapport à lui.
Ça illustre à quel point c'est difficile de contredire une théorie du genre quand on ne connaît pas le sujet à fond. Donc, j'ai parlé de cette croyance-là, comme quoi le virus n'aurait jamais été isolé, à Dr. Cécile Tremblay. Et sa réponse était claire.
Oh non, je suis absolument fou. Là. Le virus est isolé chez les êtres humains. On a des méthodes de culture pour cultiver le virus. Je l'ai fait moi-même dans mon laboratoire. On prend une coupe, puis on met ça en dessous d'un microscope électronique, on va le voir. Mais c'est pas quelque chose qui se fait facilement.
Bref, c'est vrai que personne n'a jamais isolé le virus du VIH. Chez Bernard Lachance, ils auraient pu le faire, mais ça aurait eu aucune pertinence. Parce que, contrairement à des infections bactériennes, par exemple, où les médecins vont souvent faire une culture pour voir à quelles bactéries on a affaire pour choisir le bon antibiotique, ben c'est complètement inutile de faire ça avec le VIH. On mesure d'abord les anticorps parce que c'est plus simple puis plus fiable. Puis surtout, on mesure la charge virale parce que c'est ça qui est utile pour évaluer l'état actuel de l'infection et pour vérifier que la personne répond bien au traitement médicamenteux. D'ailleurs, parlant de médicaments, ça nous amène à une autre croyance fréquente.
Peut-être le premier être humain qui arrête ses pilules HIV 3 ans puis qui est encore en pleine santé. Moi, il y a 20 ans, si j'avais...
Bernard répétait souvent qu'il était la preuve vivante que les médicaments anti-VIH n'étaient pas nécessaires parce qu'après 3 ans sans traitement, il était en parfaite santé selon lui. Mais en fait, combien de temps ça prend avant que les symptômes du sida se manifestent si on ne se soigne pas?
En moyenne, c'est entre 2 et 5 ans.
2 et 5 ans?
Oui. Les gens qu'on a vus au début de l'épidémie, donc au début des années 80, ces gens-là étaient probablement infectés depuis 10 ans, 5 à 10 ans, sans le savoir. Donc, il y en a qui vont évoluer rapidement, puis il y en a qui ça va évoluer lentement.
Bref, que Bernard se sente encore bien après 3 ans sans médicaments, ça n'avait rien d'étonnant. Mais il citait aussi des anecdotes de personnes qui auraient survécu encore plus longtemps sans traitement.
Un médecin en Espagne qui a reçu, lui, son diagnostic HIV positif en 1987. Il n'a jamais pris de pilule. Il est encore vivant aujourd'hui, 33 ans plus tard.
Ça, sur le coup, je trouvais ça difficile à expliquer. Mon premier réflexe, ça a été de me dire que ces gens-là étaient peut-être pas séropositifs pour de vrai. Mais ce que j'ai appris finalement, c'est qu'il y a une explication scientifique bien connue derrière ça.
Moi, j'en ai dans mes patients qui sont infectés depuis 25 ans, que leur système immunitaire est complètement normal, mais eux, ils ont la mutation CCR5. Et ça, c'est une mutation qu'on a découverte dans les années 90, où il y a à peu près 1% de la population qui a cette mutation-là. Et ces gens-là ne développent pas le sida. Donc, moi, j'ai quelques patients qui ont été pendant 10, 15, 20 ans sans atteinte du système immunitaire. Mais ça, c'est des exceptions.
J'ai beau m'intéresser aux mythes sur la santé depuis une dizaine d'années, mais je suis encore étonné quand j'entends des croyances comme celle qu'on vient de voir sur le VIH et le sida qui persistent alors qu'on a des preuves scientifiques hyper claires comme quoi c'est complètement faux. Mais ce qui est encore plus confrontant, je trouve, c'est de voir que Bernard Lachance avait accès à toute cette information-là qui est facilement disponible. Et c'est pas par manque de recherche de sa part, hein. Il l'a dit plus tôt, il a lu pendant des centaines d'heures sur le sujet, sur Internet et dans des livres. Et puis, d'ailleurs, dans le vidéo qu'il a adressé à Régent Thomas, il y a un livre qui apparaît presque tout le long dans le coin en haut à gauche. Ça s'appelle « L'invention du virus du sida » par Dr. Peter Duisberg. Oui, c'est lui que Guylaine Langteau est allé voir dans un congrès à Amsterdam en 1992. Et c'est aussi lui qui était mentionné dans le scénario original de Dallas Buyers Club.
A scientist named Peter Duisberg came out with this very controversial theory. He thought that HIV was not the cause of AIDS.
Peter Duisberg, c'est un biologiste moléculaire américain qui, dans les années 80 et 90, a popularisé l'idée selon laquelle le VIH serait pas la cause du sida. On peut l'entendre ici dans une émission de télé américaine diffusée en 1990.
I don't think we have found the cause of AIDS. HIV does very little in a human host.
Mais avant ça, il a été un scientifique très respecté. Ses recherches sur la génétique du cancer dans les années 70 sont jugées révolutionnaires et lui ont permis d'acquérir une renommée internationale dans le domaine. Mais Duisberg avait une personnalité particulière. Il était constamment à contre-courant, dans l'opposition face aux idées établies. Il se comparait à Galilée d'ailleurs. Et puis ça, on a vu dans un épisode précédent que c'est un argument assez commun chez les scientifiques dissidents. Ça l'a amené à développer des hypothèses très controversées sur le cancer qui l'ont peu à peu isolé des autres chercheurs dans le domaine au cours des années 80. C'est dans ce climat-là qu'il a commencé à s'intéresser au VIH, qui venait tout juste d'être découvert. Et encore là, il a appliqué la même logique pour laquelle il était connu, aller directement à l'encontre du consensus. Mais pas en faisant des recherches dans un laboratoire, là. Non, non, non. Il a simplement élaboré une hypothèse alternative sur le sida qu'il a publiée en 1987 et qui allait avoir l'effet d'une bombe. Voici comment Bernard Lachance la résumait dans une entrevue sur une chaîne complotiste en 2020.
C'était des drogués, c'était une gang de gays drogués. Dans les années 80, il y avait l'effervescence, l'émergence des bars gays aux États-Unis. Et là, t'avais le gay qui en baisait 12 par fin de semaine, qui prenait de la drogue, qui était sur le party. Bon, la gang de fêteurs, là, c'est eux autres qui crashaient leur système immunitaire.
Selon Duisberg, le VIH était un virus complètement inoffensif. Et la vraie cause des symptômes du sida, donc les pneumonies et puis tout ça,
c'était que les hommes gays avaient des mauvaises habitudes de vie qui ruinaient leur système immunitaire. Une hypothèse profondément homophobe, selon le militant Peter Staley.
So they came up with these deeply homophobic theories because of how much we partied and went to dance clubs and how much sex we had. There was no real basis for this.
À ce stade-là, la communauté scientifique commençait aussi à comprendre que le sida venait pas des États-Unis, mais bien de l'Afrique. En fait, des recherches ont démontré plus tard que le VIH s'est transmis du singe à l'humain à quelque part entre les années 1915 et 1940, puis s'était répandu à travers le continent africain dans les années 50-60. Et dans les années 80, l'épidémie était déjà catastrophique là-bas. Mais pour Duisberg, encore une fois, le VIH avait rien à voir avec ça. Selon lui, le sida n'existait pas en Afrique. Il expliquait les malades là-bas par la malnutrition, les conditions d'hygiène déficientes et aussi par un complot des médecins africains qui visaient, et je le cite, « à construire le mythe du sida pour profiter de l'argent de l'aide humanitaire ». Et finalement, Duisberg prétendait aussi que ce qui rendait les gens malades, c'était les médicaments contre le sida en tant que tel. Bernard en parlait dans sa vidéo adressée à Régent Thomas.
Comment on a triché sur la commercialisation frauduleuse de l'AZT, le premier médicament qui nous a permis d'avoir des morts pour créer leur épidémie.
Faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de médicaments antiviraux disponibles contre le sida. Le principal s'appelait la zidovudine ou AZT.
L'AZT était le premier médicament découvert qui a démontré une vraie activité antivirale. Il se prescrit encore, d'ailleurs, dans certains milieux. Mais on le donnait à forte dose. Et là, à forte dose, bien, d'abord, il est arrivé deux choses. C'est qu'après 6 mois, 1 an, il était plus efficace.
À la fin des années 80, les médecins prescrivaient l'AZT seul. Mais ce qui se passait, c'est que le VIH était capable de se modifier, de muter, et il devenait résistant à l'AZT après quelques mois. Et puis en plus, ben, c'est un médicament qui était assez mal toléré.
Il y a eu beaucoup d'effets secondaires, donc anémie importante particulièrement, fatigue. Et à partir du moment où on a diminué la dose d'AZT, la plupart de ces effets-là sont partis. Les gens ont un mauvais souvenir de ça, mais c'est normal, hein? C'est la recherche et l'évolution de la science. Mais c'était quand même le premier médicament.
Même si l'AZT était loin d'être parfait, ça a été la première étape dans la découverte de plein d'autres médicaments qui allaient avoir beaucoup moins d'effets secondaires. Donc, à la moitié des années 90 est né le concept de trithérapie, qui implique de combiner 3 médicaments antiviraux à des plus petites doses, ce qui s'est avéré super efficace. Mais chose certaine, ces médicaments-là n'ont jamais causé le sida comme le prétendait Duisberg. En fait, ses propos dénialistes sur le VIH, c'était seulement des hypothèses de sa part là, que non seulement il n'a jamais pu prouver, mais surtout qui ont été démontrées fausses par des multiples recherches hors de tout doute raisonnable.
On est 100% certain du lien entre l'infection par le virus puis le sida. Maintenant, on a des outils tellement plus sophistiqués. Donc, on est même capable de suivre le chemin du virus dans le corps humain et de pouvoir lui attribuer les différents problèmes de santé que la personne peut avoir. Donc, il n'y a plus de crédibilité à ces notions-là, là. Vraiment.
Cette question-là a été décortiquée de tellement de manières possibles et imaginables que là, c'est vérifié avec une certitude complète.
Oui, tout à fait.
Au moment où je faisais ma recherche pour le balado, on n'avait pas entendu parler de Peter Duisberg depuis quelques années. Il n'y avait aucune information disponible sur ses activités récentes, à part qu'il était encore listé comme professeur-chercheur sur le site web de l'Université Berkeley, en Californie. J'ai contacté Duisberg en passant, pas pour discuter de ses théories, mais pour lui offrir un droit de réplique. Je lui ai écrit à son adresse universitaire, mais c'est sa conjointe qui m'a répondu, par une simple phrase que je vous traduis ici. « Mon mari, Peter Duisberg, a eu un accident vasculaire cérébral en 2021 qui l'a laissé avec une aphasie sévère affectant la parole, la lecture et l'écriture. Il n'est pas en mesure de vous parler. » Pendant une 20aine d'années, Peter Duisberg a partagé ses théories à propos du VIH sur la place publique. Il a influencé des milliers de patients à travers le monde et aussi certains professionnels de la santé qui ont jugé son message crédible. Et ça incluait Guylaine Langteau.
tous ceux qui se sont pris en charge, qui ont changé tout ce qui affectait leur système immunitaire, qui n'ont pas pris d'AZT parce que ça, c'était, ça revenait de façon sine qua non, ont survécu. Et ceux qui n'ont pas fait cela, ceux-là sont morts.
Comme je l'ai mentionné à la fin de l'épisode précédent, Guylaine Langteau a participé à un congrès à Amsterdam en 1992 qui mettait en vedette les scientifiques dénialistes du VIH, dont Duisberg. Et ça, c'était en marge du vrai congrès international qui avait lieu en même temps dans la même ville. Mais à son retour, dans une entrevue à Radio-Canada, Guylaine Langteau rapportait ses nouveaux apprentissages, dont les propos de Duisberg, comme si c'était des théories tout à fait légitimes.
Le HIV est un virus que vous pouvez contacter ou pas. Et si vous le contactez, que vous êtes en bonne santé, votre système immunitaire va faire des anticorps, puis ça va s'arrêter là. Et c'est tout. Et vous n'aurez jamais de maladie. Vous allez devenir séropositif, mais vous pouvez être séropositif ou HIV ou à n'importe quel virus de grippe que vous attrapez. Ça ne veut rien dire, séropositif. Un gars comme Duisberg, par exemple, qui est un chercheur, un biologiste-chercheur à Berkeley, lui est absolument contre l'idée du virus qui donne la maladie. Alors il dit, moi, inoculez-moi un virus, j'ai tout fait de rire, ça ne me dérange pas du tout, je n'aurai jamais la maladie.
C'est exactement ce discours-là qui vient de Duisberg, qu'on retrouve aussi dans le livre « La mafia médicale », comme je l'ai constaté ici dans ma lecture.
Elle dit au congrès sur le sida en mai 1992, tout le monde était d'accord qu'on peut être séropositif et dormir tranquillement sur ses deux oreilles. Elle dit « Le sida, ça se prévient, ça se traite, mais surtout pas avec des médicaments. » On la parle de Peter Duisberg, mais elle dit « Le VIH, c'est un rétrovirus inoffensif. » Duisberg l'appelle « le petit minou ».
Ce que j'ai réalisé à travers mes recherches, c'est qu'en transmettant presque mot à mot le discours de Duisberg dans les médias et dans ses conférences, Guylaine Langteau a été une des scientifiques les plus actives et puis peut-être même la plus influente au Québec dans la propagation des théories dénialistes du sida. Et d'ailleurs, la mafia médicale a eu des conséquences réelles à ce niveau-là. Par exemple, voici un extrait du Radio-Journal de Radio-Canada diffusé en août 1995.
Un homme intervenant psychosocial en toxicomanie, séropositif, se sert du livre du Dr. Langteau pour justifier de ne pas prendre de mesures de protection lors de relations sexuelles. L'homme en question juge le livre du Dr. Langteau crédible parce qu'elle est médecin.
Et comme Duisberg, Guylaine Langteau affirmait aussi que la vérité était étouffée et que les lanceurs d'alerte sur la fraude VIH étaient censurés.
Enfin, les mots étaient très virulents pour décrire la fraude qui a eu lieu. Et là, je rapporte ce qui a été dit. Parce que quand ils rapportent des choses qui ne vont pas dans le sens de la médecine conventionnelle, de la médecine orthodoxe, pour utiliser leur terme, qui est établie, ils se font traiter de meurtriers et ils perdent leur emploi. Donc, ils ont dit carrément, et je cite encore ce qu'ils ont dit, « Si vous trouvez la vérité, vous êtes punis ».
Cécile Tremblay, qui fait elle-même de la recherche dans le domaine, rejette l'idée que les adeptes des discours dénialistes aient été censurés.
Dans le domaine du VIH, il y a énormément de forums scientifiques où les gens peuvent s'exprimer, peuvent présenter leurs données. C'est tout à fait correct d'émettre une hypothèse qui n'est pas celle qui est dominante. Mais il faut être honnête avec les résultats qu'on obtient, puis il faut être conséquent. Alors, si quelqu'un fait des choses qui ne font ni queue ni tête, qui n'ont aucune base scientifique, c'est bien entendu que ça ne sera pas accepté pour un congrès ou accepté dans une revue scientifique. Puis c'est là le problème où les gens, quand leur idée ne fonctionne pas, ils décrochent pas. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de censure.
Les idées de Duisberg ont été invalidées par les spécialistes du sida dès le départ, donc à la fin des années 80. Mais ce qui peut sembler étonnant, c'est qu'elles ont été bien reçues initialement par la communauté gay. J'imagine qu'elles donnaient de l'espoir, et puis une solution simple face à une maladie mortelle. D'ailleurs, le militant Peter Staley admet que si lui-même avait eu un peu moins confiance en les institutions scientifiques au moment de son diagnostic, il aurait pu tomber dans le panneau en entendant un scientifique réputé comme Duisberg.
To hear a scientist saying, "Oh, not to worry. You might be HIV positive, but you're not going to die." That might be an attractive thing to hear and to latch onto emotionally.
Mais pour Bernard Lachance, c'était l'industrie pharmaceutique et le système de santé qui étaient contre les gays dans cette histoire-là.
Ce crime contre l'humanité qui s'appellera un jour le génocide gay.
Je dois vous parler brièvement de deux autres scientifiques qui ont joué un rôle majeur dans le déni à l'Est du VIH-SIDA parce qu'ils sont importants pour le reste de l'histoire. Le premier s'appelle Kerry Mullis. Et puis, lui, c'est un cas particulièrement intéressant parce qu'il a reçu le prix Nobel de chimie pour avoir inventé le test PCR, qui est utilisé pour des tonnes de choses en médecine. Par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce test-là parce qu'il était utilisé pour diagnostiquer la COVID-19. Mais c'est un test qui sert aussi à mesurer la charge virale des patients séropositifs. En gros, l'hypothèse alternative de Kerry Mullis ressemble beaucoup à celle de Duisberg. Donc, le VIH est inoffensif et cause pas le sida, les tests sont faux et servent à rien, etc. Il a annoncé ça dans un livre en 1998, encore là, sans avoir fait de recherche sur le sujet. On peut l'entendre ici dans un documentaire dénialiste.
There wasn't a scientific reference, like a paper that somebody had submitted and said, here's how come we know that HIV is the probable cause of AIDS. There was nothing out there like that. Nothing.
Pensez-y quand même, là. Quand la personne qui a inventé le test vous dit que le test est frauduleux, ben, on peut pas s'empêcher d'y réfléchir à deux fois. Mais au final, ça restait juste son opinion.
C'est pas parce qu'on invente un test qu'on comprend nécessairement la pathophysiologie des maladies. Des fois, il faut faire attention, les gens ont certaines expertises dans certains domaines, puis ils ne devraient pas dépasser leur domaine de connaissance.
Comme on l'a vu dans un épisode précédent, sortir de son champ de compétences, c'est une des grandes raisons pour lesquelles des scientifiques peuvent dire et croire à des faussetés. Et puis, d'ailleurs, j'ai beaucoup lu sur le parcours de Kerry Mullis. Et puis, j'ai remarqué plein des mêmes signes que j'ai observés dans le parcours des autres scientifiques dissidents. Mullis était reconnu pour sa personnalité opposante. Il trouvait ridicule les idées largement acceptées et, selon lui, les scientifiques mainstream étaient corrompus. Au tout début de sa carrière, il avait même tenté de faire publier un article où il proposait sa propre théorie qui expliquait le fonctionnement de l'univers de A à Z. Sans surprise, il se comparait lui aussi à Galilée et il se décrivait aussi comme un génie plus le fun qu'Einstein. Mais bon, tout ça ne l'a pas empêché d'avoir un impact majeur sur les théories dénialistes du VIH. Bernard Lachance le citait souvent d'ailleurs à son ami Vincent.
C'est Kerry Mullis. Bernard revenait beaucoup avec ça. Puis c'est sûr que c'était un maillon essentiel, là, comme quoi il était sur la bonne voie en cessant de prendre ses pilules de VIH.
L'autre scientifique dont je veux vous parler, c'est un nom qui devrait vous être assez familier maintenant. Luc Montagné, qui, je vous le rappelle, a reçu le prix Nobel de médecine pour avoir co-découvert le virus du VIH.
Luc Montagné, ça a frappé. Tu sais, comment tu peux comprendre ça, qu'un scientifique de si haut niveau qui a découvert le virus, en fait, ce qui remettait en question, puis qui n'est pas totalement tout faux, lui, il disait c'est pas juste le VIH, puis là, il a un petit peu raison, c'est sûr que...
Montagné, gens... contrairement à Duisberg et Mullis, était convaincu que le VIH causait bel et bien le sida. Mais selon lui, l'épidémie de sida en Afrique venait surtout de la malnutrition et puis d'une mauvaise hygiène qui affaiblissait le système immunitaire, ce qui permettait au VIH de se multiplier.
C'est sûr que les gens qui n'ont pas accès à une nutrition en Afrique, qui n'ont pas accès à des soins de santé de base élémentaires, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas le VIH qui cause le sida. T'sais.
Selon Montagné, si une personne séropositive avait des bonnes habitudes de vie, son corps pouvait se débarrasser du VIH en quelques semaines. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a accroché Bernard Lachance.
Je ne sais pas trop quoi y répondre, parce que d'un côté, ça n'a peut-être pas d'allure, mais de l'autre, il y a des éléments qui ont bien du bon sens, Puis j'imagine que ces quelques éléments-là, Bernard, s'y accrochait beaucoup.
Il y a plusieurs autres scientifiques qui ont joint les rangs dénialistes du VIH, mais ces trois-là, Duisberg, Mollis et Montagné, ont été parmi les plus influents. Et puis, je comprends les gens d'être embêtés face aux propos de ces scientifiques-là, qui ont tous un immense bagage de notoriété. En fait, ça me ramène à l'origine de toute ma démarche pour le balado, et puis à l'autre gang de scientifiques dont parlait Bernard Lachance.
Je te cite les tops du top, les inventeurs, les découvreurs, puis tu me dis, tu cites toujours les mêmes, c'est pas des bonnes références. Tu dis toujours que j'arrive avec Mullis puis Luc Montagné, mais c'est parce que qui est crédible pour toi pour parler du PCR si l'inventeur du PCR ne l'est pas? Ces deux gars-là ont eu des prix Nobel. Qui t'a tombé pour parler du VIH qui a plus de crédibilité? T'es tombé sur la tête!
Qui es-tu pour penser le contraire? Puis effectivement, qui suis-je pour penser le contraire? Moi, ce que je peux simplement y répondre, c'est que t'écoutes un scientifique là, en faisant ça.
C'était effectivement les propos de scientifiques isolés qui ont été largement dénoncés par les spécialistes du sida comme des pures faussetés, dès le début d'ailleurs. De sorte qu'à travers les années 90, presque personne dans la communauté scientifique les prenait au sérieux. Donc, on pourrait penser que les dommages qu'ils ont causés ont été plutôt limités. Mais en fait, non. C'était loin d'être terminé.
Promise that will always promote all that will advance the Republic and oppose all that may harm it.
Ce que vous venez d'entendre, c'est le discours inaugural de Thabo Mbeki, élu président de l'Afrique du Sud en 1999. Il succédait à Nelson Mandela dans un pays ravagé par le sida. Des décisions devaient être prises rapidement et il s'adonne que des médicaments antiviraux devenaient enfin disponibles en Afrique à ce moment-là, via des programmes humanitaires. Donc, l'opportunité était là pour tenter de mieux contrôler la pandémie. Mais la vie du président Mbeki sur le VIH et le sida correspondait pas au consensus. En l'an 2000, il forme un comité consultatif qui inclut des scientifiques à contre-courant, dont Peter Duisberg et Luc Montagné. Puis, comme on peut l'entendre ici dans son discours annuel à l'Assemblée nationale sud-africaine, il annonce que le VIH n'est pas la cause du sida.
Does HIV cause AIDS? How does a virus cause a syndrome? It can't.
Peu après, le gouvernement Mbeki met en place des politiques qui interdisent l'accès aux médicaments antiviraux, qui décrit comme du poison, et y encourage plutôt l'utilisation de remèdes naturels comme la betterave. Il cesse aussi de financer des cliniques de prévention de la transmission du VIH. La docteure Cécile Tremblay se souvient bien de ce moment-là.
Étant donné que l'épidémie était flamboyante dans les pays d'Afrique, les pays à ressources limitées, il y a des gouvernements puis il y a des régimes qui ont pris position en se disant un peu « si je nie que ça existe, j'ai pas à m'en occuper ». Et puis, on veut pas avoir l'air d'être un pays qui a beaucoup de cette maladie-là.
En 2008, le président Mbeki a perdu ses élections et a été remplacé par un nouveau gouvernement qui a rapidement annoncé qu'il adhérait à la vision scientifique du sida et que les médicaments antirétroviraux feraient partie de leur campagne contre le VIH. C'était une nouvelle extraordinaire, mais ça ne pouvait pas réparer les dommages causés pendant presque 10 ans. Quand j'ai commencé à faire des recherches là-dessus, je me doutais que les conséquences sur les vies humaines avaient dû être immenses. Mais je ne m'attendais pas aux chiffres que j'ai lus. En 2008, une étude menée par des chercheurs en santé publique a estimé que 171 000 nouvelles infections, dont 35 000 chez des enfants, étaient attribuables spécifiquement aux dénialistes du gouvernement Mbeki. Et en termes de mortalité, c'est 330 000 personnes de plus qui sont décédées du sida.
En Afrique du Sud, où on a complètement nié que la maladie existait, puis donc, ça l'a fait en sorte qu'on n'a pas traité la maladie, alors que d'autres pays comme son voisin d'à côté, le Botswana, a pris une attitude complètement différente. On a reconnu qu'on avait maintenant des traitements pour soigner les gens. Puis c'est intéressant de voir l'évolution dans le temps de ces deux pays-là. Le Botswana est maintenant un des pays dans le monde qui est le plus avancé pour atteindre les objectifs de contrôle du VIH, alors que l'Afrique du Sud a pris énormément de retard et l'épidémie est encore flamboyante en Afrique du Sud.
Ce qui est dur à comprendre aussi, c'est que dans certaines versions des théories dénialistes, il est affirmé que le sida faisait partie d'un plan de dépopulation de l'Afrique, orchestré par l'industrie pharmaceutique. Et dans d'autres versions, c'était un plan de dépopulation chez les homosexuels. Bernard Lachance croyait à ces deux versions-là simultanément, d'ailleurs.
Tu sais, lui, ce qu'il disait, c'est que c'était sûr que c'était faux, puis que c'était la plus grosse imposture du monde, là, tu sais. Fait que c'était vraiment un génocide qu'ils ont fait, là.
Mais moi, quand je regarde ça en rétrospective, j'ai l'impression que s'il y a eu un vrai génocide, c'est le dénialisme en tant que tel qui l'a causé. Je sais qu'on vient de passer beaucoup de temps sur Duisberg et les autres dissidents, mais je pense que leurs histoires sont vraiment importantes pour réaliser à quel point des scientifiques qui développent leurs propres idées, qui vont à l'encontre de la science, mais sans collaborer avec leur communauté, peuvent faire des dommages. Et pourquoi c'est important de ne pas les laisser faire. D'ailleurs, quand le militant Peter Staley a lu le scénario de Dallas Buyers Club et qu'il a retrouvé un condensé des théories dénialistes de Duisberg, il ne pouvait pas laisser passer ça. Après plein de démarches et avec l'aide d'autres militants, il a réussi à parler au téléphone au réalisateur du film, Jean-Marc Vallée.
And I said, Jean-Marc, you've got that problem happening on your script right now. A conspiracy theory called AIDS denialism. Pure evil.
Le mal absolu. C'est comme ça qu'il a décrit le dénialiste du VIH à Jean-Marc Vallée, qui connaissait rien du sujet. Donc, il a proposé un appel conférence avec une des deux scénaristes du film, Melissa Wallach, pour lui faire part des problèmes dans le scénario. Et là, par la réaction de Melissa Wallach, il a compris ce qui se passait.
She said, I just can't believe you would say these disparaging things about a genius like Peter Duisberg.
Je traduis. Je n'arrive pas à croire que tu puisses dire ces choses dénigrantes à propos d'un génie comme Peter Duisberg.
For me, it was like ding, 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 ding. I just exploded. I said, what are you talking about? Genius?
Peter Staley était furieux. Il lui a rappelé que le dénialisme du sida avait causé la mort de centaines de milliers de personnes. Mais il n'est pas arrivé à la convaincre. En passant, j'ai tenté de rejoindre Melissa Wallach de plusieurs manières pour obtenir sa version des faits, mais j'ai pas obtenu de réponse. Bref, ça regardait vraiment mal pour le film. Donc, Peter Staley a répondu en privé à Jean-Marc Vallée et lui a dit « Je t'implore d'aller chercher d'autres avis. Demande à des médecins et à des experts. Ce que tu vas faire dans les prochaines 24 heures va déterminer si tu peux sauver ton film ou non. »
In order to save your film, you have one job in front of you that you have to do really, really, really fast. And he's like, okay.
Dans Dallas Buyers Club, le personnage principal, Ron Woodruff, part en croisade contre l'AZT, le premier médicament antiviral contre le VIH, qui dénonce comme étant toxique. Et puis, comme on l'a vu plus tôt, c'est vrai que ce médicament-là avait beaucoup d'effets secondaires, et plusieurs personnes ont dû l'arrêter à cause de ça. Quand les gens se soignent pas là, de nos jours, mettons,
oui.
La raison, est-ce que c'est les traitements qui sont mal tolérés ou quoi?
Oh, non, les traitements sont bien tolérés aujourd'hui. Ils ont peu d'effets secondaires. Dans les années 90, à la fin des années 90, on avait à peu près 20 % de nos patients qui cessaient leur traitement. Puis c'était principalement à cause des effets secondaires. Aujourd'hui, on a moins de 2 % de gens qui cessent leur traitement.
Dans ses vidéos, Bernard Lachance critique beaucoup l'AZT lui aussi. Mais pourtant, il a reçu son diagnostic en 2008, donc il n'a jamais eu à prendre d'AZT. Il a eu accès aux traitements modernes, bien tolérés, donc c'est pas à cause de ça qu'il a arrêté sa médication.
Des gens qui font de la négation, c'est difficile à comprendre pour nous autres, hein, comme scientifiquement. Puis t'as des gens, comme on a vu, qui se laissent mourir parce qu'ils croient pas. Là, le virus, l'avez-vous vu, le virus?
Dr. Thomas m'a parlé un peu de Bernard Lachance, des conversations difficiles, voire impossibles qu'il avait avec lui, qui tournaient en rond. En fait, il a vécu la même chose que la famille et les amis de Bernard à ce niveau-là. Je lui ai aussi parlé de la vidéo que Bernard lui avait adressée en ligne.
Puis si tu penses que je suis fou, ben fais-moi enfermer en psychiatrie, puis mets-moi dans la même cellule que les prix Nobel que je cite. Ceux-ci beaucoup plus formés que toi.
Tu sais, qu'est-ce qu'on répond à ça? Je veux dire,
on répond rien. Il n'y a rien à faire. Moi, en fait, je répétais toujours la même chose. Protège-toi si tu as des relations sexuelles, parce que tu vas contaminer du monde. Deuxièmement, ben, d'ici 2 ans, tu vas être aveugle ou tu vas avoir une atteinte neurologique ou tu vas faire une pneumonie. C'est une question de temps. Donc, c'est difficile à comprendre pour nous. Le problème avec ça, c'est l'influence auprès d'autres gens qui sont plus vulnérables. Moi, quand c'était arrivé cette histoire-là, j'ai beaucoup de patients qui m'en ont parlé. Est-ce que je peux arrêter mes traitements? Puis, donc, il y en a qui l'ont fait, point. Puis, il y a des gens qui t'en parlent. Puis là, ben, eux autres, ils sont ouverts à écouter quand même ton point de vue. Puis la plupart de ces gens-là, ils arrêteront pas.
Ça m'a fait de la peine d'entendre que Bernard, de par son influence chez les personnes séropositives, mais aussi dans les milieux complotistes, ait pu avoir un impact négatif sur d'autres personnes malades. Mais un peu plus tard, ça a eu un autre type d'impact aussi.
Quand il est décédé, on a eu plein d'appels le lendemain des gens qui avaient cessé leur traitement puis qui voulaient recommencer.
Ah oui?
Oui, oui.
Ah. En avril 2021, Bernard allait vraiment pas bien.
Quelques jours avant de mourir, son ami médecin est venu le voir. C'est là qu'il l'a pesé. Il pesait 114-115 livres. Puis il lui a dit, Bernard, tu vas mourir. Il a passé de 180 livres à 115 livres. 115 livres, là, pour un homme qui mesure 5 pieds 10, là, c'est squelettique. Bien, c'est la diarrhée qui a fait qu'il a maigri autant. Puis, je veux dire, il était tellement infecté dans tous ses organes que, je veux dire, à la fin, il dit lui-même, ouais. Il digérait même pas. Il vomissait une pomme, là. Il était plus capable de s'alimenter du tout.
Bernard refusait toujours catégoriquement de se faire soigner. Selon lui, il était pas malade.
C'était très clair dans ma tête que la bonne chose à faire, c'était de recommencer de prendre ses pilules. Il voulait rien savoir. T'arrêtes de prendre tes pilules de VIH, tu tombes malade, une maladie bizarre qu'on comprend pas, mais Chris, c'est le sida. T'sais, qu'est-ce que tu vas penser que c'est? Il va dire, ah, il m'avait répondu à ce moment-là, ah oui, mais ça, si je tombe malade, ça va être à cause des médicaments que j'ai pris. C'est quoi? C'était au mois de... C'était peut-être fin mars, avril. Il a arrêté de me donner des nouvelles. Puis là, je me suis dit, il y a quelque chose là, qui se passe, là, quelque chose qui ne va pas.
Le 30 avril 2021, Marie-Claude et Bernard se parlent au téléphone.
C'est-tu parce que tu étais inquiète de son état?
Oui. Puis quand il m'a parlé, la première affaire qu'il m'a dit, il dit, « Bon, t'es-tu en pandémie, toi, là, aussi, là? » Tu sais, fait que c'est ça, bon, on a eu une conversation... pas le fun du tout, là. Fait que... Puis là, ben après ça, j'ai fait... Pourquoi qu'il m'a appelé, là? Je veux dire, il sent peut-être sa mort, tu sais. Fait que là, j'allais rappeler le 4 mai. Ah, oh, ça va mieux, je prends du mieux, si pis ça, puis... Fait que on a une conversation quasiment de politesse, tu sais. C'était plus mon frère, tu sais. Puis la journée de sa mort... J'y ai texté. Je t'appelle à midi pile. Puis il était déjà décédé.
Bernard Lachance est décédé le 11 mai 2021. Le coroner a pu confirmer plus tard que c'était à cause d'une septicémie bactérienne, donc une infection généralisée de son sang, et que c'était une complication du sida. Il concluait en disant « Il s'agit d'un décès naturel ». Tu me disais que toi, tu te sentais quand même coupable de ça. Puis, mais de, tu sais, de quoi, qu'est-ce qui te fait sentir comme ça, au juste?
Bien, parce que Bernard, il me demandait souvent mon avis. J'étais une référence pour lui. Fait que j'ai comme senti à un moment donné que j'étais plus capable de le raisonner. J'étais plus capable de. Puis, tu sais, j'ai arrêté d'essayer. C'est ça ma culpabilité que j'ai. J'ai arrêté d'essayer de le raisonner, puis tu sais, j'ai passé à d'autres choses, parce que ma vie, c'est pas ça, tu sais. Ma vie, c'est que je vais travailler, je m'occupe de mes enfants, j'ai une maison toute seule, puis tu sais, je veux dire. Fait que ma culpabilité vient du fait que j'ai pas assez essayé.
Tu sais, Bernard, il y a une vidéo que vous avez peut-être vue, là, où il parle à son médecin, tu sais, Régent Thomas, qui est quand même une sommité dans le monde du sida, puis... Il croyait même plus son médecin. T'sais, il dit à Régent Thomas, « Régent, tu connais rien. Moi, là, je te cite des prix Nobel. » Fait que, tu sais, à un moment donné, s'il croit même plus comme un de nos top experts au Québec sur le sida, c'est en tout cas, je pense que c'est quand même improbable ouais. que quiconque aurait pu le convaincre du contraire. En tout cas, c'est mon impression, tu sais.
Oui, c'est ce que je me dis. J'essaie de me convaincre. Tu sais, j'essaie de me sortir de cette culpabilité-là en me disant... que ça n'aurait rien changé parce que je n'étais plus sa référence. Il ne m'écoutait plus. Parce qu'il y avait du monde en arrière de lui qui le supportait dans ses affaires, les maudits scientifiques.
Après le décès de leur frère, Lise et Marie-Claude ont pris action par rapport au site web sidacensure.com que Bernard avait mis en ligne.
Le site n'existe plus aujourd'hui, c'est parce qu'il n'avait pas payé son hébergement?
Non, non, ça a été enlevé par la famille.
Vous avez décidé de le fermer, autrement dit?
Oui. C'est pas des choses qu'on veut qui soient véhiculées, là. Ouais. Protéger les gens.
Ouais. À ce moment-là, leur deuil aurait pu commencer. Mais un autre choc les attendait.
Comment vous avez appris ça, premièrement, qu'il y avait des gens qui pensaient qu'ils n'étaient pas décédés du sida?
Quand j'ai annoncé son décès, tout de suite.
Sur les réseaux sociaux?
Sur ma page Facebook. Tout de suite, ça a sorti. Bernard, on sait. Puis il mettait des vidéos en dessous de l'annonce du décès.
Durant la pandémie de la COVID-19, Bernard avait acquis une certaine notoriété chez les adeptes de théorie du complot qui s'opposaient aux mesures sanitaires. Et après son décès, des gens ont commencé à dire qu'il avait été assassiné par l'industrie pharmaceutique pour l'empêcher de révéler la fraude VIH. Par exemple, un sondage amateur sur une page Facebook complotiste avait récolté 135 votes et 96 % des répondants appuyaient la thèse de l'assassinat. Bref, un nouveau complot était né au sujet de Bernard cette fois-ci. Mais en fait, c'était un peu lui qui avait préparé le terrain pour ça. Comme on peut l'entendre ici dans une entrevue sur une chaîne YouTube.
Moi, à leur place, je me tuerais. Parce que... à leur place, j'éliminerais Bernard Lachance. Hein, non, preuve vivante, là, de... Tu sais, qui prend pas ses pilules, qui est en pleine santé. Moi, à leur place, je l'éliminerais. Je ne suis absolument pas suicidaire.
Ça change rien.
Si vous entendez parler que Bernard Lachance s'est fait suicider, c'est pas moi. Puis si vous entendez que Bernard Lachance est mort du sida, il est mort empoisonné. C'est ce qu'ils font.
Ça n'existe pas, se faire suicider. Ouais. Mais Bernard vivait beaucoup dans la peur. Parce qu'il vérifiait tout le temps que sa porte était barrée. Lui, dans sa tête, il allait se faire assassiner là, dans sa propre maison. Là.
OK, il était convaincu de ça.
Oui, convaincu.
Il avait peur.
Avant.
Vraiment.
Ah, oh, oui. Ouais.
Faut dire que Bernard disait constamment qu'il était en pleine santé et en pleine forme, malgré qu'il avait arrêté sa trithérapie. Donc, ça donnait de la crédibilité à son message dénialiste. Mais en discutant avec Lise et Marie-Claude à ce sujet-là, elles m'ont appris quelque chose de vraiment surprenant qui a jamais été dit jusqu'à maintenant.
C'est vrai qui allait vraiment bien depuis qu'il a arrêté. Au moment où il a arrêté sa trithérapie, là, Bernard, il s'était fait dire par les scientifiques, les faux scientifiques, on s'entend, que la manière de se sortir du sida, c'est de bien manger, pas boire d'alcool, boire de l'eau beaucoup, s'entraîner, bien dormir, c'est pis ça, c'est pis ça, c'est pis ça. Mais Bernard, là, quand il prenait sa trithérapie, là, il mangeait du McDo, là, 5-6 fois par semaine.
C'est vrai.
Il avait une vie de débauche. Il allait dans les bars, il mangeait de la junk. Il passait des nuits blanches à foirer. C'est sûr qu'il se sentait mieux. Parce que du jour au lendemain, il mangeait bien. Il buvait plus d'alcool. Il s'entraînait. T'sais, il a vu son corps, sa qualité de vie, son énergie augmenter en flèche. Mais lui, dans sa tête, c'était pas parce qu'il mangeait bien, puis qu'il dormait, puis qu'il boirait, tu sais, qu'il avait une vie saine. Dans sa tête, c'était parce qu'il avait arrêté de prendre ses médicaments.
Ah, c'est dommage intéressant. Il avait tout amélioré ses habitudes de vie, mais c'est sûr qu'il se sentait mieux, tu sais, comme n'importe
qui. Mais aussi, j'ai l'impression qu'il y a un aspect psychologique là-dedans. Hey. Le fait qu'il a découvert la fraude, c'est motivant. Hein? Du jour au lendemain, t'es plus séropositif. C'est pas pire pour le moral, ça. Mm.
Il y a encore une partie de l'histoire de Bernard Lachance qui reste à raconter. C'est ce qui s'est passé en lien avec Guylaine Langteau juste avant son décès.
Terry Mullis, il n'était pas là quand il est mort. Peter Dusburg non plus, il n'était pas là. Luc Montagnier non plus. Mais Guylaine Langteau, elle y a parlé. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'en ai aucune idée, mais...
Ça, je vous propose qu'on y revienne à la toute fin du balado, quand je vais avoir terminé toutes mes autres recherches. Mais ce que je note, c'est que quand Bernard Lachance est décédé, pendant quelques semaines, ça a ramené le sujet du sida à l'avant-plan. Et puis, c'était particulier parce que c'est un sujet dont on parle de moins en moins sur la place publique. Et un manque de connaissances, c'est un facteur de vulnérabilité pour adhérer à des fausses croyances.
C'est parce que les traitements sont beaucoup plus efficaces, donc on voit moins de gens qui meurent. Quand, dans une communauté, 20 % des gens mouraient, les gens voyaient leurs amis, leurs frères, leurs mononcles mourir du sida, c'était difficile de l'oublier. Maintenant, c'est invisible. Ce qui me fatigue beaucoup, puis j'aimerais ça que ça ressorte aussi, c'est que quand, avec la pandémie de COVID, on a oublié qu'il y avait une autre pandémie qui existe encore, celle du VIH. Il y a encore 1,5 million de personnes qui se font nouvellement infectées par le VIH chaque année.
En fait, autant Dr Tremblay que Dr Thomas m'ont partagé qu'ils s'inquiétaient d'une possible recrudescence des cas de sida.
Le sida est très, très banalisé. On en parle peu, on fait comme si ça n'existait pas. Récemment, les nouveaux diagnostics que j'ai faits, c'est que les gens sont peu informés. En même temps, comme tout le monde, ils ne se protègent pas. Parce que le monde ne se protège plus. On a eu toute une génération de pas d'éducation sexuelle, toute une génération de pas de campagne de prévention, je veux dire.
Donc, le VIH va peut-être remonter...
Dans certains endroits, oui.
Ah oui.
Oui.
Et un peu paradoxalement, il y a en même temps énormément de travail à faire pour lutter contre les préjugés entourant le VIH, qui sont encore bien présents de nos jours.
Il y a encore des gens qui n'osent pas dire leur statut à des gens proches d'eux de peur d'être stigmatisés, de peur de ne pas avoir un logement, de peur de ne pas avoir d'assurance. Il y a des gens qui ne vont pas aller se faire diagnostiquer. Ils ont plus peur de savoir leur diagnostic parce qu'ils vont devoir gérer ça après.
La bonne nouvelle, par contre, c'est qu'on a aujourd'hui des traitements plus efficaces que jamais, avec peu d'effets secondaires. De trithérapie, on est passé à une bithérapie, donc seulement 2 médicaments par jour, ce qui est une révolution comparativement aux traitements précédents.
Et là, il s'en vient, comme il y a des traitements pour le VIH en injection, ça, c'est intéressant. On donne une injection 2 mois.
Oh, wow!
Ouais.
Hey, 2 mois?
Oui, 2 mois, il y a des études sur 6 mois actuellement. Ça fait une injection de 6 mois, imagine.
Il existe aussi la PrEP maintenant, qui est un médicament carrément préventif contre l'infection au VIH et qui a une efficacité de 95 à 100 quelque chose qu'on n'aurait jamais cru possible dans le passé.
Donc, si on jumelle ces deux approches-là là, ensemble et puis que c'est bien implémenté, on peut atteindre un seuil où il n'y a plus de transmission du VIH. C'est faisable avec les outils qu'on a. Si tout le monde qui avait le VIH connaissait leur statut, était traité puis avait une charge virale indétectable, on arrêterait la pandémie comme ça. On arrêterait la transmission.
Wow! En 2012, la chercheuse sud-africaine Nicolie Natras a publié un article qui résumait ses travaux sur le dénialisme du VIH-SIDA au cours des 10 dernières années. Et elle y propose une sorte de recette pour qu'une théorie du complot du genre fonctionne aussi bien et cause autant de dommages. On pourrait l'appeler le modèle des 4 piliers. Et puis, j'aimerais ça vous le présenter parce que je trouve que ça résume bien tout ce qu'on vient de voir dans cet épisode-ci. Mais surtout, je trouve qu'on peut aussi l'appliquer à l'ensemble des théories du complot en lien avec la santé, comme celles qui concernent les vaccins, le cancer ou même la COVID-19. Donc, selon elle, voici ce que ça prend. Pilier numéro 1, des scientifiques héroïques qui donnent de la crédibilité au mouvement, comme Peter Duisberg, Luc Montagnier et Kerry Mullis. Guylaine Langteau fait partie de ce groupe-là aussi.
Guylaine Langteau, en deux mots, si vous aviez le sida, qu'est-ce que vous feriez, vous? Si vous étiez séropositif?
Je ne ferais rien d'autre que ce que je fais là. Je le suis peut-être et ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Ce n'est pas une maladie. Et d'être séropositif ou pas, ça n'a absolument aucune espèce d'importance.
Pilier numéro 2, des entrepreneurs qui vont proposer des cures miracles.
Il y avait des gens qui venaient à la clinique, s'installaient dans la salle d'attente, puis accrochaient les patients. Des espèces de cures. Ça coûtait une fortune. Il n'y avait aucune efficacité de tous ces fameux traitements. Il y avait de l'exploitation.
Pilier numéro 3, ça prend aussi des icônes vivants. Ça, c'est des témoignages de gens qui prétendent être en parfaite santé ou ça être complètement guéri malgré une maladie grave et qui propagent activement des messages comme quoi la position scientifique dominante est un mensonge. Des gens comme Bernard Lachance.
Il a fait la même démarche qu'il a toujours faite toute sa vie. Il a pris le téléphone, il est allé sur Internet, il a fait ses recherches, comme on dit. Il était dans l'action. Pas à peu près, là.
C'était super cohérent avec tout ce qu'il a fait dans sa vie, dans le fond.
Oui, oui, tout à fait. Sauf que là, bon, mais ce coup-là, au lieu de lui amener un succès, ça l'a amené à la mort.
Et finalement, le pilier numéro 4, ça, c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé. C'est ce que Nicolie Natras appelle des chanteurs de louanges. C'est des journalistes, des documentaristes, des cinéastes et d'autres personnes des médias qui endossent eux aussi la théorie du complot et qui la font connaître à travers leurs reportages et leurs œuvres. Le film Dallas Buyers Club, d'ailleurs, est passé à un cheveu d'appartenir à cette catégorie-là. Mais en bout de ligne, Peter Staley et son groupe de militants ont réussi à faire changer le scénario, alors qu'il restait seulement 4 jours avant le début du tournage.
4 days before filming began.
Exactly.
That's crazy.
Yeah, so we got a lot of the obvious stuff out.
C'est Jean-Marc Vallée, à lui seul, qui a pris cette décision-là. Il a décidé de se fier aux vrais scientifiques, aux vrais spécialistes. J'aurais aimé ça lui en parler, mais malheureusement, il est décédé subitement, de cause naturelle, le 25 décembre 2021. Jean-Marc Vallée a dit à Peter Staley quelque chose que je trouve important, parce que ça devrait servir de leçon. Il lui a dit « Dans mes films, je raconte des histoires humaines, mais pour qu'elles puissent réellement toucher les gens, elles doivent être basées sur la vérité. »
What's your opinion about the final movie?
There were a bunch of problems, but overall, it wasn't going to kill anyone, and it was going to be one of the few films Hollywood made about AIDS. And in that sense, I took it as a win.
Peter Staley n'est pas complètement satisfait du film final. Ben, moi-même, je l'ai écouté, puis C'est sûr qu'il reste un petit fond dénialiste, là. Je veux dire, c'est quand même l'histoire d'un gars qui part en croisade contre Big Pharma pour vendre ses propres remèdes. Sauf que dans la réalité, ses remèdes n'étaient pas efficaces, alors que le médicament de Big Pharma, lui, l'était. Mais bon, comme dit Peter Staley, il y a tellement peu de films hollywoodiens qui parlent du sida qu'il a décidé de prendre ça comme une victoire. Mais il reste que c'est inquiétant de constater à quel point c'est facile pour que des fausses informations, de la fausse science, et puis même des théories du complot se faufilent dans une œuvre majeure comme ça.
Do you find it scary that if you weren't involved, I think the movie might have ended up like that?
Exactly. And it would have been completely trashed. But how, yeah, the big question is, how did it get that far?
Les films et les documentaires ont beaucoup d'impact sur les croyances populaires. Donc, on ne peut pas se permettre de ne pas être extrêmement prudent et puis de ne pas faire toutes les vérifications nécessaires avant de mettre de l'avant l'opinion d'un ou d'une scientifique marginale sur une plateforme de grande écoute comme ça.
Films are very impactful on what people believe. TV, film, documentaries can really change, can impact lives and cost lives. So be very, very careful and do your due diligence.
C'est vrai pour les films et les documentaires, mais c'est vrai aussi pour la télé, la radio et les journaux. Est-ce que les médias sont prudents par rapport aux scientifiques dissidents? Dans le prochain épisode de Dérive, les secrets de la mafia médicale, je me demande si les médias devraient donner la parole aux scientifiques marginaux et j'essaie de comprendre comment Guylaine Langteau a réussi à acquérir autant de notoriété.
Le gouvernement annonce quelque chose, on veut savoir si c'est bien ou mal, on va aller interroger les partis d'opposition. Ce qu'on ne peut pas vraiment faire en science, parce que ce serait de ramener la science à une espèce de croyance.
On a fait une entrevue, une espèce de face-à-face. Puis je la voyais patiner, puis moi, je ne suis pas un scientifique, alors c'est un peu plus compliqué.
Les marchands de doutes, qui sont des gens qui ont bonne tenue en ondes, alors que des fois, les bons scientifiques ne sont pas aussi bons.
J'ai envoyé un communiqué de presse à tous les médias. Je signe, il y en a un médecin. Là, j'ai dit, mon titre, il faut que ça serve. Alors...